dans l'évangile de Matthieu, avec un regard particulier sur Jésus comme le vrai roi, comme notre roi, comme nous venons de chanter. Et aujourd'hui, nous arrivons à la suite logique de ce que nous avons déjà vu. Après son baptême, Jésus est préparé pour son ministère par ses épreuves dans le désert. Et puis, il choisit ses disciples. 12 disciples qui représentent un nouvel Israël centré sur lui-même, le nouveau roi. Et logiquement, par la suite, ce nouveau roi annonce les principes de son royaume dans le serment sur la montagne. Mais comme nous l'avons vu la semaine dernière, ce royaume n'est pas fait que de beaux principes. C'est le règne d'un roi puissant qui change notre vie. Et donc nous avons vu qu'après avoir annoncé les principes du royaume, Jésus, le roi, montre sa puissance. Il manifeste son autorité. Au chapitre 8 et 9, dans l'évangile de Matthieu, Jésus, il calme la tempête, il chasse les démons, il guérit des gens, il pardonne les péchés. Dans chacun de ces quatre types de miracles, dans chacun de ces quatre types de ces quatre domaines, Jésus a l'autorité absolue. Et c'est le dernier qui l'identifie vraiment comme Dieu. Pardonner le péché, ce n'est que Dieu qui peut faire ça, définitivement. Le pardon du péché, ça vient de Dieu. Et pour ceux qui acceptent ce pardon et le fait que Jésus est en effet Dieu, la suite logique est d'expérimenter cette puissance, cette autorité dans sa propre vie. Et comme Didier nous a expliqué la semaine dernière, nous aussi, nous sommes en Jésus-Christ, si nous l'avons accepté, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus est vainqueur et nous sommes en lui. Nous sommes comme le sergent dans l'armée victorieuse qui a maintenant l'autorité lui-même sur les générales de l'armée vaincue. J'ai tellement aimé cette illustration, Didier, je vais le répéter. Nous sommes comme ce sergent-là qui n'a pas de puissance en lui-même, mais parce que l'armée est victorieuse, nous sommes. Parce que si nous sommes en Christ, quand le Père nous regarde, il voit Jésus. Et si nous sommes en Christ, quand l'ennemi nous regarde, il voit aussi Jésus. Quand l'ennemi te regarde, il voit Jésus, celui qui l'a vaincu. Alors, tout ça, c'est le prélude à ce qu'on va voir aujourd'hui. À la fin du chapitre 9, et au début du chapitre 10. Si Jésus a manifesté sa puissance, et si nous savons que nous partageons cette puissance, à la fin du chapitre 9, nous allons commencer à voir pourquoi. Pourquoi est-ce que Jésus donne nous aussi cette puissance, cette autorité? Et que faut-il en faire? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait avec cette autorité, nous, ses disciples? Et nous allons voir trois choses par rapport à cette autorité dans ce passage. Le but, les dangers et la solution. Nous avons déjà vu la source. La source de cette autorité, c'est Jésus lui-même. C'est sa victoire. Et aujourd'hui, nous allons voir surtout le but, les dangers et la solution. Alors, lisons ensemble Matthieu 9 à partir du verset 26. On va commencer au verset 26. Jésus vient de guérir encore plusieurs personnes et de chasser des démons. Et ce que nous lisons ici se passe dans ce contexte-là. «
malheur. Je pense que c'est plutôt au verset 35. 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Chapitre 10. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariot, celui qui trahit Jésus. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de chemise, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Amen. Alors, avant de regarder cette autorité que Jésus donne à ses disciples, d'abord une parenthèse sur deux détails un peu difficiles dans ce passage. Premièrement, il est intéressant de noter que Jésus leur dit d'aller d'abord chez les leurs, vers les autres juifs. Et nous verrons bien à la fin de cet évangile qu'il les envoie aussi vers le monde entier. Allez, faites des disciples de toutes les nations, il va dire. Mais ici, au début de leur ministère, Jésus commence avec le peuple juif. Il ne va pas aller vers le monde entier avant d'avoir amené la vérité à ceux qui l'entourent. C'est peut-être un bon rappel pour nous de ne pas chercher à avoir un ministère au monde sans avoir bien commencé par notre famille, nos enfants, nos parents, nos proches, notre époux. C'est là où notre service au Seigneur commence. Si nous ne faisons pas preuve d'amour envers ceux qui sont devant nous, ça ne sert à rien de chercher à le faire ailleurs. Deuxièmement, à la fin de ce passage, nous voyons encore la tension qui existe dans la vie chrétienne concernant les biens matériels. D'un côté, la richesse matérielle ne doit pas être le but de notre vie. De l'autre côté, Dieu se soucie de notre bien-être, y compris notre bien-être physique. Et donc Jésus dit aux disciples de ne pas se comporter comme les philosophes païens en allant de maison en maison afin de vendre leur enseignement, en quelque sorte. C'était la mode à l'époque, d'aller de maison en maison et essayer de vendre son enseignement. La bonne nouvelle de Jésus n'est pas à vendre. Et son but n'est pas de nous rendre riches. En même temps, c'est un principe bien biblique depuis l'Ancien Testament que ceux qui passent leur temps dans le ministère ont le droit de vivre par leur travail, c'est-à-dire par leur ministère. Ce n'est pas une question d'échange économique. Je vous partage la bonne nouvelle si vous me donnez 100 euros. Ou encore pire, je vous guéris si vous me donnez 500 euros. Ça ne marche pas comme ça. Mais c'est une question de partage. Selon Galates 6:6, partage pour que justement qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Et c'est ça le but que nous voyons dans ce passage, qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. C'est le but, en fait, de l'autorité que Jésus donne à ses disciples. C'est pour qu'ils puissent, eux, de leur tour, annoncer la venue de son royaume. À la vue des foules, Jésus fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Des brebis qui n'ont pas de berger. Je ne sais pas si jamais vous avez l'impression d'être une brebis sans berger, ou si vous n'avez jamais vécu ça. C'est une image forte qui se trouve au moins 4 fois dans l'Ancien Testament. Sans Dieu, nous sommes comme des brebis sans berger, sans guide, sans protection, sans quelqu'un pour nous aider à trouver le chemin dans une vie parfois très très difficile et accablante. Jésus voit ça et il est rempli de compassion. Si tu es là ce matin, c'est parce que Jésus t'a vu et il a été rempli de compassion. Parce que toi aussi, toi tu étais comme une brebis qui n'avait pas de berger. Et moi aussi. Et Jésus nous a vus et il fut rempli de compassion. Nous avons tous ça en commun. Et ce que nous voyons ici dans ce passage, c'est que si Jésus nous a appelés, ce n'est pas juste parce qu'il était rempli de compassion pour nous, c'est parce qu'il a été rempli de compassion pour tout le monde, pour tous ceux qui nous entourent, pour tous ces gens autour de toi, qui galèrent parce qu'ils n'ont pas de berger. Jésus voit ton voisin. Jésus voit tes parents. Jésus voit tes collègues. Et quand il les voit, il est rempli de compassion. L'es-tu? Es-tu rempli de compassion pour ces personnes qui n'ont pas de berger? Tout partage de l'Évangile, à chaque fois que nous partageons notre foi ou que nous faisons quelque chose en son service, ça doit commencer là, la compassion. Ce n'est pas une question de conquérir les autres religions. Ce n'est pas une question de montrer au monde que nous avons raison et ils ont tort. Ce n'est pas une question de remplir les chaises ou les paniers. C'est une question de compassion. Parce que sans Jésus, nous sommes tous des brebis qui n'ont pas de berger. Et donc, Jésus dit aux brebis qui l'ont accepté comme berger, à ses disciples, « Maintenant, vous, allez-y. » Il voit la foule et il est rempli de compassion. Et la première chose qu'il fait, c'est d'envoyer les 12 pour annoncer son royaume. Pour annoncer que le roi qui les aime est venu. Et c'est à ce moment-là qu'il leur donne son autorité. C'est à ce moment-là que Jésus leur donne l'autorité de faire ce que lui le faisait déjà. Amener la guérison, chasser les démons, déclarer le pardon, annoncer la vie éternelle. Il leur donne cette autorité pour qu'ils puissent aller vers ce peuple qui n'avait pas de berger. Et proclamer l'arrivée du roi berger, parce qu'il fut rempli de compassion. Si moi je suis plus que vainqueur en Christ, si moi j'ai l'autorité de proclamer sa parole et de chasser Satan partout où je le trouve, c'est le résultat direct de la compassion que Jésus a pour ses autres, pour mes voisins, pour ma famille, pour cette église. Si toi, tu as l'autorité du Christ dans ta vie, c'est la conséquence directe de la compassion de Jésus, déjà pour toi et puis pour tous ceux qui t'entourent. Et dans ce sens, et la source et le but de ton autorité en Christ, c'est la compassion de Jésus.
Jésus t'a sauvé par compassion pour toi, mais il te donne son autorité par compassion pour la foule qui t'entoure. La moisson est grande, Jésus dit. La question c'est, est-ce que tu vas en être un ouvrier? Jésus t'envoie, mais est-ce que tu vas? Il t'envoie dans le monde pour annoncer son royaume, que ce soit en annonçant la parole publiquement, que ce soit en manifestant son amour envers quelqu'un, que ce soit en priant en son autorité, que ce soit en amenant la guérison physique, spirituelle, émotionnelle à quelqu'un, nous avons tous un rôle à jouer. Et peut-être que ton rôle est plus grand que tu as pensé jusqu'ici. Il faut se poser la question. Peut-être que Dieu t'appelle à un nouveau ministère. Le grand thème de la conférence pastorale ou de notre association cette année, c'était ce passage, la moisson est grande. Et nous avons passé pas mal de temps en parlant et en priant pour les 7 églises, par exemple, de notre association qui n'ont pas de pasteur pour le moment. Parce qu'il n'y en a pas assez en France. L'église d'Herbert et Henriette en est une pour le moment. Mais ce n'est pas juste ça. Il n'y a pas assez de gens en France qui vivent tout simplement leur vie chaque jour, jour après jour. Ce n'est pas juste une question de devenir pasteur, devenir ancien, responsable. Il n'y a pas assez de gens en France qui vivent leur foi chaque jour. Et chacun d'entre nous peut en être un. Nous pouvons tous être ouvriers dans la moisson. Et quoi que nous fassions, nous le faisons parce que Jésus fut rempli de compassion. Puisque la moisson est grande, après les 12, dans les évangiles, en fait, on voit que Jésus envoie les 70 personnes. Et cette partie de l'histoire se trouve en Luc 10. Donc, si vous voulez, vous pouvez trouver l'évangile de Luc. Chapitre 10, Jésus va envoyer 70 disciples, 70 personnes qui croient en lui et qui le suivent, mais qui ne font pas partie de son équipe de 12. Et Jésus donne aux 70 presque exactement les mêmes instructions qu'il avait données aux 12, sauf que pour les 70, il ne précise pas qu'il faut aller plutôt vers les Juifs. Cette fois-ci, les disciples de Jésus vont aller vers tout le monde. Et voici ce qui se passe. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Je ne sais pas pour vous, mais ça m'interpelle tout de suite. Parce que ça parle de la joie que nous pouvons avoir dans le ministère. Pas juste le ministère pastoral, mais le ministère que nous avons tous envers les autres. Ce ministère peut nous apporter beaucoup de joie, c'est vrai. Il n'y a presque rien de plus réjouissant que de voir une personne rencontrer Jésus pour la première fois et de reconnaître le berger qu'il cherchait, peut-être même sans le savoir. La joie de voir une vie transformée par la paix et l'amour de Jésus. Je m'identifie beaucoup avec les 70 dans ce passage. Il y a bien des jours où je rentre à la maison tout joyeux et j'annonce à Sheila ou vice-versa. Waouh! Voici ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu sais ce que j'ai vu? Voici ce que Dieu fait chez telle ou telle personne. Et on se réjouit. C'est normal. Peut-être que vous avez eu cette expérience. Un ami ou un collègue qui rencontre Jésus, ou qui revient à Jésus. Peut-être grâce à votre témoignage. Ou quelqu'un qui trouve la force se relever grâce à l'amour dont vous lui avez fait preuve. Et on ne peut que se réjouir dans ces instants. Même les anges font la fête, la Bible nous dit, quand ça arrive. Mais vous voyez aussi peut-être le danger. C'est normal de se réjouir lorsque Dieu nous utilise pour son royaume, pour sa mission. Et pourtant, Jésus dit à la fin de ce passage, en reprenant cette idée de joie du verset 17, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. » C'est un léger reproche, mais c'est un reproche quand même. Jésus est doux, mais parfois, il faut trancher. Les disciples sont en train de célébrer leur victoire et Jésus leur dit, « Tout à fait, je vous ai donné cette autorité. » Mais faites attention, il y a un danger. Faites attention parce que cette autorité ne devrait pas être la source de votre joie. Cette autorité qui nous permet de réussir dans notre mission ne doit pas être la source de notre joie. Sinon, nous nous ouvrons à plein de dangers spirituels dans notre vie. Nous allons en parler de trois dangers. D'abord, le découragement. Si nous nous réjouissons dans notre pouvoir, nous risquons le découragement. Si nous nous réjouissons dans notre autorité, dans la puissance qui nous est donnée par Jésus, nous risquons de perdre notre joie dès que les choses ne vont pas bien. Et parfois, les choses n'iront pas bien. Comme Jésus l'a dit aux 12 et encore aux 70, il va y avoir des maisons, des gens qui ne veulent pas entendre la parole. On n'a pas lu cette partie du passage, mais c'est bien marqué. Jésus donne cet avertissement. Il va y avoir des gens qui ne veulent pas l'entendre et qui après ne le mettent, ou qui vont l'entendre et qui après ne vont pas le mettre en pratique, comme la parabole du semeur. Ou encore des gens qui le mettent en pratique pendant un certain temps et puis qui retombent. C'est une réalité de notre monde. Et les 70, ici, ils risquent d'être très déçus lorsqu'ils chassent un démon, par exemple. Et puis, il voit que la personne est toujours sous l'emprise de Satan parce qu'elle n'avait pas accepté Jésus pour lui-même. Ou ils vont guérir quelqu'un qui, après, ne décide pas de rendre gloire à Dieu pour la guérison. C'est ce qui arrive en Luc 17. Si notre joie dépend du succès de notre ministère, tôt ou tard, nous allons être déçus. Parce que même avec l'autorité du Christ, nous n'avons pas le pouvoir de forcer les gens à répondre d'une certaine manière. Certains d'entre nous viennent d'en parler après notre sortie d'évangélisation le samedi dernier. La plupart des gens ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Et ça peut être décourageant. Mais nous ne sommes pas appelés à être un succès. Vous voyez? Ni dans le ministère, ni dans la vie en général. Nous ne sommes pas appelés à être un succès. Nous sommes appelés à être fidèles. Et c'est Dieu qui s'occupe du reste. Sinon, nous risquons le découragement. Deuxièmement, si ma joie dépend du succès de mon ministère, très vite, je ne ferai plus par compassion, mais pour moi-même. Je deviens égoïste dans ma façon de servir. Si ma joie, par exemple, dépend du succès de cette église, alors en réalité, je ne travaille plus pour Dieu ni pour vous. Je travaille pour moi-même, pour assurer ma joie. Et du coup, si les choses ne vont pas bien pour une raison ou autre, ou si moi je pense qu'ils vont pas bien, ma joie sera menacée. Et je vais commencer à tout faire pour protéger ma joie, pour protéger ce que je prends pour le succès, non plus par compassion, mais par égoïsme. Et c'est quelque chose qui peut nous arriver tous. Faisons attention que l'égoïsme n'entre pas dans notre ministère aux autres. Dieu a dû me montrer ces deux dangers, en fait, au moment où je pensais que le projet bâtiment allait tomber à l'eau, et qu'il ne pouvait plus avancer parce que Eberman avait dit non, et ainsi de suite. Et j'ai dû me poser la question, pourquoi est-ce que j'étais tellement triste le soir où j'ai reçu cet appel? J'étais vraiment triste. Est-ce que c'était parce que j'aime l'Église? Ou parce que ma joie dépendait du succès de mon ministère, entre guillemets? Et mon ministère, à ce moment-là, était d'aider cette Église à trouver un bâtiment. Et j'avoue que Dieu m'a montré que c'était un mélange. J'aime cette église, sincèrement, je vous aime. J'aime ce que Dieu fait ici. J'aime Dieu. C'est pas un mensonge. Mais j'aime le succès aussi. Je veux accomplir quelque chose pour Dieu. Mais Dieu ne me demande pas d'accomplir quelque chose. Il me demande d'être fidèle. C'est lui qui bâtit. C'est lui qui accomplit. Je ne sais pas dans quel aspect de votre vie vous avez rattaché votre joie à votre succès. C'est peut-être au travail, ou à l'école, à l'église, dans votre famille. Souvent, pour nous qui sommes parents, nous trouvons notre joie dans le succès de nos enfants. Et dans un sens, c'est normal. C'est normal de se réjouir lorsque les choses vont bien pour nos enfants. Mais si je trouve ma joie dans leur succès, qu'est-ce qui se passe lorsqu'elles échouent? Est-ce qu'elles ont le droit même d'échouer, mes enfants, mes filles? Est-ce qu'elles ont le droit de faire leurs propres erreurs, d'avoir leur propre cheminement? Ce sera difficile si ma joie se trouve dans leur succès. Est-ce que je vais pousser mes filles vers ma définition du succès pour ma joie? Être un parent, c'est un ministère. Être un ami, c'est un ministère. Être un époux, c'est un ministère. Et pour chacun de ces ministères, nous ne sommes pas appelés à réussir. Nous sommes appelés à être fidèles. Et Dieu s'occupe des résultats. L'avertissement de ce passage pour les disciples. Ce sont les dangers si nous trouvons notre joie dans notre ministère et puis les choses vont mal. Mais alors, si elles vont bien, comme pour les 70 dans ce passage, prenons juste un instant pour regarder le texte plus près. Parce que là, les choses vont bien. En réponse à la proclamation des 70 que les démons leur étaient soumis à son nom, Jésus raconte la chute de Satan. Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un premier temps, c'est un rappel de notre premier point, n'est-ce pas? L'autorité que Jésus avait donnée aux disciples vient de la victoire de Jésus lui-même sur Satan, par sa vie et sa mort et sa résurrection. Et cette phrase-là, ça nous rappelle cette victoire comme elle est décrite en Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 7, je vais le lire. Il y a eu alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon, c'est Satan. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Ils furent jetés dehors. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors, à la lumière de ce passage, Jésus semble dire aux 70, ce que vous venez de faire, c'est le début de ce que je vais accomplir moi-même à la croix. Satan, le serpent, sera vaincu et vous aurez le pouvoir de marcher sur lui, comme annoncé au Genèse 3 d'ailleurs. C'est un rappel que cette autorité qu'ils ont trouvée, tellement réjouissante, trouve sa source dans la croix de Jésus. C'est le premier rappel. Mais il y en a un deuxième, je trouve, dans ce passage, dans cette citation de Jésus. Parce que si Jésus a vaincu Satan à la croix, ce n'est pas la seule fois dans la Bible où Satan tombe. Pour Satan, la première chute vient au moment où Dieu le précipite de sa présence, avant la création du monde. Vous connaissez peut-être l'histoire. On en lit en Ézéchiel 28. Ton cœur s'est engorgé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Avant la création du monde, Satan est tombé. Satan est jeté du ciel, de la présence de Dieu, parce qu'il s'est révolté contre Dieu. Avant que Jésus le vainque à la croix, Satan est déjà tombé une fois, exclu de la présence de Dieu à cause de son orgueil. Et en 1 Timothée 3:6, l'apôtre Paul nous rappelle que c'est par l'orgueil que nous risquons de tomber comme le diable est tombé. Du coup, cette image de Satan qui tombe comme un éclair dans ce passage, ça peut être nous. Si nous devenons orgueilleux comme lui, impressionnés de ce que nous prenons pour notre propre pouvoir. Vous voyez, Jésus donne un rappel de la façon dont Satan est tombé et c'était orgueil. Si Dieu nous a donné une partie de son autorité spirituelle, c'est pour faire avancer son règne. Et c'est un royaume révolutionnaire justement parce qu'il est construit sur l'amour. Et le don de soi sur la compassion, et non sur le pouvoir brut. Combien de ces 70, je me demande, combien auraient été prêts, après avoir participé à ces manifestations de la puissance de Dieu, combien auraient été prêts à participer aussi à la croix avec pas beaucoup, je pense. Parce qu'ils se réjouissent de la mauvaise chose. Ils se réjouissent de leur pouvoir. Alors, de quoi devrions-nous nous réjouir? Verset 20. Du fait que notre nom est écrit dans le ciel. Du fait que notre nom est écrit dans le livre de vie. Que nous avons passé du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Apocalypse 20 décrit le dernier jugement. Je vais lire Apocalypse 20, verset 11. Voici ce que Jésus montre à l'apôtre Jean, une vision du jour du jugement, après le retour du Christ. Et là, il y a deux livres. Notons bien ce qui est dans ces livres. Apocalypse 20, verset 11. Je vis alors un grand tremblant et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouvera plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. C'est une vision assez sombre. Vous me connaissez, vous savez que moi je préfère lire chapitre 21. La nouvelle terre et le nouveau ciel. Mais là, il faut bien comprendre qu'avant ça, il y a le jour du jugement. C'est un jour de justice. Le mal va être jugé, chassé du monde. Et qui sera jugé conformément à ses œuvres dans ce passage? Tous. Nous tous. C'est effrayant. Nous tous serons jugés en plus coupables, car nous sommes tous pécheurs. Et pourtant, comme nous le disons et nous le redisons, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors pourquoi? Comment est-ce possible? C'est possible parce que leur nom, votre nom, mon nom, il est aussi écrit dans un deuxième livre, le livre de vie. C'est de ça que Jésus parle dans ce passage. Voilà de quoi nous devons nous réjouir. Nous étions destinés à la mort. Non pas juste la mort physique, mais aussi la seconde mort, la mort spirituelle, éternelle. Mais en Jésus-Christ, parce qu'il fut rempli de compassion, nous avons la vie éternelle. C'est ça la source de notre vraie joie. Bien sûr, c'est magnifique lorsque nous découvrons la puissance de Christ dans notre vie. Et lorsque nous découvrons que nous pouvons nous servir de cette puissance pour amener les autres au salut, à la guérison, à la paix, à la liberté en Christ, c'est réjouissant. Mais la source de notre joie, ce n'est pas le pouvoir, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est sa compassion pour nous et pour les autres. La moisson est grande. Beaucoup cherchent cette vie. Est-ce que Dieu t'appelle vers quelqu'un cette semaine qui cherche la vie? Quelqu'un qui a besoin de son amour, qui a besoin de sa parole, qui a besoin de sa paix? Jésus nous appelle à les partager par sa puissance, mais il nous avertit. Ce n'est pas de cette puissance que nous devrions nous réjouir. Ce n'est pas le succès de mon ministère qui compte. C'est son amour pour moi. C'est son amour pour toi qui compte. C'est le fait qu'il nous a vus là au milieu de la foule et il fut rempli de compassion. Il nous a appelés à la vie et maintenant il nous dit en Ésaïe 49, moi je ne t'oublierai jamais. Moi je t'ai gravé sur mes mains. Jésus t'a gravé sur ses mains. Voilà de quoi nous réjouir. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter à ce Jésus.